Chapitre 2. Maëlys. Mardi 5 novembre. Peu après les vacances de la Toussaint, nos quatre journalistes en herbe se retrouvent chez Suzy après l'école pour leur conférence de rédaction quasi bimensuelle. Au début de l'année, avant qu'ils ne se lancent dans l'aventure journalistique, la mère de Louise, rédactrice en chef dans un grand magazine féminin, leur a fait un topo sur le confectionnement d'un journal. Les Condors, comme certains les surnommant désormais, commencent par évoquer les critiques qui leur ont été faites à l'un ou à l'autre, à l'oral ou par texto. 15 jours après la parution du premier numéro, les réactions sont plutôt positives. Seul bémol semble-t-il l'article sur Nicolas de Condorcet, qui n'a pas passionné les foules. Benjamin, l'auteur, est vexé comme un pou. Si ça se trouve, dit Suzy pour le rassurer, ils ne l'ont même pas lu. Quelle bande d'ignares, peste Benjamin. Condorcet était un génie. Et puis, tu as vu, ils ont bien aimé tes mots croisés, ajoute Louise. Bon, conclut Enzo, on est sur la bonne voie. Est-ce que vous avez des suggestions d'articles pour le prochain numéro, demande Suzy. Que diriez-vous d'un article sur les profs, lance Benjamin. Chacun aura droit à son portrait, à son anecdote rigolote, à son surnom. La totale, quoi. C'est une super idée, approuve Suzy. Et pour la BD, Louise, qu'est-ce que tu as en tête? Louise sort un cahier dans lequel elle a déjà réalisé quelques croquis. Voilà, j'ai pensé que le Condor pourrait tester les menus de la cantine. Trop bien, s'exclame Enzo. C'est la fable du héron de la fontaine, revisitée comme commente Louise. Au début, rien n'est assez bon pour le Condor. Les haricots verts sont pleins d'eau, les frites huileuses, le poisson n'a pas de goût, le steak haché n'est pas cuit. À la fin du repas, le héron, décidément trop difficile, n'a rien avalé. Et le dernier morceau de pain lui file sous le nez. Sous le bec, rectifie Benjamin. C'est un oiseau. Et pour le portrait, demande Enzo, tu as pensé à quelqu'un, Suzy? J'ai bien envie d'interviewer Oriane Doré, c'est la fille la plus populaire du collège. En tout cas, parmi les cinquièmes, elle est capable d'imiter n'importe qui, les hommes politiques, les chanteuses, ou bien un prof, un élève. Elle a un humour qui décoiffe, ajoute Benjamin. Une heure plus tard, les amis se quittent satisfaits. On a bien avancé, conclut Enzo. Oui, acquiesce Suzy, et il faut continuer comme ça si on veut sortir le deuxième numéro avant Noël. Mardi 5 novembre. Je crois bien que je suis tombée amoureuse d'une autre fille. Elle s'appelle Maëlys et elle est championne de tennis. Suzy lui avait consacré un chouette portrait dans le petit Condorcet. C'est dingue. Depuis que je l'ai croisée à la piscine pendant les vacances de la Toussaint, je ne pense qu'à elle. J'ai un peu honte car je ne ressens plus grand-chose pour Agathe qui occupait toutes mes pensées. Il y a encore 15 jours, c'est donc ça être un cœur d'artichaut. Jeudi 7 novembre. Plus je vois Maëlys et plus je suis amoureux. C'est marrant, elle est très différente d'Agathe. D'abord, physiquement, elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Maëlys est blonde et elle a les cheveux au carré, alors qu'Agathe a une longue chevelure rousse. Les deux filles ont à peu près la même taille, mais Maëlys est plus mince et elle est beaucoup plus sportive qu'Agathe. Elles ont aussi des caractères opposés. Maëlys aime bien se faire remarquer, Agathe est plutôt réservée. Vendredi 8 novembre, j'ai bien réfléchi. Artichaut doit reprendre du service. Je vais écrire à Maëlys un poème comme j'en ai écrit un à Agathe, mais cette fois sous la forme d'un calligramme. C'est Apollinaire qui a inventé le mot. Et d'après le prof, il est le plus célèbre auteur de calligramme. Dans ses poèmes, à la fois visuels et sonores, les vers sont disposés de telle sorte qu'ils portent un dessin, comme ce calligramme représente le visage de loup coiffé d'un grand chapeau qui a composé à partir d'une photo de sa bien-aimée. J'aime l'idée d'avoir un double. Je suis Artichaut, comme Don Diego de la Vega et Zorro et Peter Parker et Spider-Man. La classe, quoi. Samedi 9 novembre. Écrire un calligramme, ça paraît simple quand on le voit terminé, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne paraît. Je pensais en créer un à partir du portrait de Maëlys qui a été publié dans le Petit Condorcet. Mais je dessine comme un pied. Du coup, je me suis rabattue sur un cœur percé d'une flèche. C'est romantique et surtout, c'est un dessin à ma portée. Dimanche 10 novembre. Impossible de me limiter au contour du cœur pour faire ma déclaration d'amour à Maëlys et lui donner un rendez-vous. Ça me laisserait trop peu de mots, je n'aurais qu'à écrire la suite du poème à l'intérieur du cœur et pour épouser sa forme, j'adapterai la longueur des vers. Lundi 11 novembre. A priori, un calligramme donne beaucoup plus de liberté qu'un acrostiche. On peut écrire ce qu'on veut du moment que les mots forment le dessin voulu. Le problème, c'est que je ne sais pas par quel bout prendre mon poème. Hier, en peine d'inspiration, j'ai réalisé que me donner des contraintes pouvait, malgré les apparences, me faciliter la tâche. Alors j'ai décidé de jouer avec les rimes du prénom de Maëlys, comme je l'avais fait pour Agathe. Dur, dur. Une nouvelle fois, j'ai dû faire appel à ma mère. Maman, surtout, ne fait pas de commentaires. Lui ai-je fait promettre. Voilà, je suis tombée amoureuse. Encore ? Oh, pardon, ça m'a échappé, mon chéri. Je t'en prie, continue. D'accord, je suis tombée amoureuse d'une autre fille. Je voulais lui écrire un calligramme qui rime avec son prénom. Maëlys, mais je rame pour trouver des rimes. Ainsi, t'amuse ton inspiratrice. Ne t'inspire pas assez pour que tu noircisses ta page et tu as besoin de mes services. Quel flair, maman, tu devrais être inspectrice. J'ai travaillé presque toute la journée sur mon poème et ma mère m'a consacré 2 heures. Je crois qu'on tient le bon bout. Mercredi 13 novembre. Ouf, j'en ai enfin fini avec mon calligramme. Je ne pensais pas que ce serait si long de le mettre en forme. Il a fallu pour que le texte épouse vraiment la forme du cœur, que j'ajoute un mot ici, que j'en supprime un autre là, que je tasse certains vers, que j'en étire d'autres. Quelle galère! Enfin, je suis content du résultat, c'est le principal. Je sais que le jeudi soir, Maëlys a un entraînement de tennis. Du coup, j'ai trouvé la factrice idéale, sa raquette de tennis. Demain, à l'heure du déjeuner, je m'arrangerai pour glisser la lettre dans la housse. Jeudi 14 novembre, 17h59. Maëlys sort des vestiaires de son club de tennis pour rejoindre le cours où son entraînement va commencer. Tandis qu'elle retire la housse de sa raquette, une enveloppe vierge s'en échappe. C'est sa camarade qui le lui fait remarquer. « Tu as perdu ça, Maëlys ? Ce n'est pas à moi. En tout cas, c'est tombé de ta housse. » Maëlys ouvre l'enveloppe et en sort une feuille pliée en 3. C'est une lettre d'amour que quelqu'un a glissée en douce dans sa housse. Pour éviter les questions indiscrètes de sa camarade, elle préfère dire un mensonge. « Ah oui, j'avais oublié, c'est une liste de livres sur le tennis que le mono m'a vu filer au dernier cours. Ben pourquoi il ne me l'a pas passé aussi ? Je peux l'avoir ?» Maëlys regrette aussitôt d'avoir menti. La voilà obligée d'inventer encore une histoire. Heureusement, le moniteur qui vient de faire son entrée sur la cour leur demande de se mettre en position. Maëlys a un peu de répit. À la fin de la séance, elle quittera le vestiaire en vitesse sans changer de tenue, prétextant que ses parents ont invité des amis pour le dîner et qu'elle doit aider sa mère. Pendant son entraînement, Maëlys n'est guère concentrée, ce que le moniteur ne manque pas d'ailleurs de lui reprocher. Elle pense à la lettre qu'elle a reçue. Elle n'en a lu que quelques lignes, mais elle a hâte de découvrir la suite. Et aussitôt qu'elle a quitté le club, elle ne résiste pas à la tentation de lire le poème, tout en marchant. Le texte est inscrit dans un cœur percé d'une flèche et trouve ça un peu tarte.